Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Merci d'être là pour débriefer cette première partie de l'examen des motions de censure, puisque les discours se poursuivent. Ensuite, on écoutera bien sûr Gabriel Attal, Michel Barnier. Il y aura le vote dans les salles annexes et l'annonce du résultat. Que retenez-vous, Alain, sur ces premiers discours, ceux d'Éric Coquerel, Marine Le Pen, Brice Ballot et Laurent Wauquiez ?
Je pense que le passage le plus intéressant, c'était la fin du discours de Laurent Wauquiez, et en particulier quand il insistait sur le fait que, à la crise économique, à la crise sociale, à la crise militaire, risquait de s'ajouter la crise institutionnelle et le désordre. Et sur ce point, il l'a fait avec des paroles assez fortes, en prenant date pour la suite et en accusant les trois orateurs précédents de préparer une sorte de dislocation du régime et d'irresponsabilité à un moment où il est tellement difficile de gouverner. Pour le reste, chacun était sur sa ligne. Éric Coquerel était un sectaire avenant. Marine Le Pen était une autoritaire sûre d'elle-même. Boris Vallot essayait d'être un littéraire inspiré. Le début du discours de Laurent Wauquiez était parfaitement conventionnel, on aurait pu l'écrire très facilement nous-mêmes. En revanche, la fin était intéressante dans la mesure où c'est la question de la stabilité des institutions, et on voit bien, puis je m'arrête, on voit bien qu'il y a vraiment en ce moment, un moment qui est quand même particulièrement risqué pour l'ensemble des Français, on voit bien qu'il y a deux tentations. Une tentation de s'en prendre directement à la présidentialisation, et ça, ce sont les Insoumis et le Front National, le Rassemblement National, et puis une tentation qui est au-delà des clivages gauche-droite, et qui est de reparlementariser le fonctionnement, de revenir au pouvoir dans le Parlement. Et ça, c'est à la fois chez Wauquiez, mais c'est aussi chez Boris Vallot.
Oui, qui a dit, aujourd'hui, le pouvoir n'est plus à l'Élysée ni à Matignon, mais voilà, au Parlement. Jean-Pierre Raffarin, on vit un moment historique, selon vous ?
Non, c'est un moment désolant, c'est un moment triste, parce qu'au fond, on voit la Chambre nationale devenir la Chambre du désordre. On ne voit pas d'alliance constructive. On a entendu des discours qui voulaient mettre de la vertu sur une alliance qui est coupable entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc, il y a aujourd'hui un choix de notre représentation nationale, le verbe contre l'action. C'est ça le fond de l'affaire. On les voit tous heureux de parler, tous satisfaits de cette intervention, alors que le pays attend de l'action, que nous sommes dans des difficultés majeures, que nous avons des difficultés, qu'on est dans une situation internationale extrêmement difficile et anxiogène, qu'on a dans notre aujourd'hui situation nationale une forme d'impasse, parce qu'on ne sent pas qu'il y ait dans cette Assemblée nationale la capacité de gouverner. Ils en ont pas envie. Ils veulent régler des comptes les uns contre les autres. Ils parlent éventuellement de compromis, mais ils les refusent. Ils ne veulent pas travailler ensemble. C'est une Assemblée qui choisit le désordre. Peut-on rester 2 ans et demi dans le désordre ? Ça va être très difficile. Parce que naturellement, si les choses devaient continuer, à la crise politique succéderait la crise financière, puis la crise sociale, et finalement, naturellement, la crise institutionnelle. Car à un moment ou à un autre, le pays sera dans l'impasse, car on ne pourra pas essayer de faire en sorte que...
Oui, mais on ne peut pas reprocher aux oppositions de s'opposer, de ne pas être d'accord, le jeu parlementaire.
Non, mais c'est la censure qu'on reproche.
C'est dans la Constitution, la 5e République.
Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça vous regarde, et c'est respectable. Moi, je pense vraiment que la censure, c'est le papagaille et c'est le désordre. Et je pense que tout Premier ministre qui va être annoncé aura des marges de manœuvre plus étroites les avait Michel Barnier. Donc ce que n'a pas pu faire Michel Barnier, je ne crois pas que quelqu'un d'autre pourra le faire.
Alors, qui est responsable de cette situation ? Parce que chacun a essayé de trouver les coupables. Alors bien sûr, ils ne sont pas les mêmes en fonction des personnes qui ont pris la parole. Emmanuel Macron a été cité par exemple Marine Le Pen.
Dans cette Assemblée, il n'y a pas d'innocents. Chacun a une part de responsabilité. Pas dans les mêmes proportions, mais chacun a une part de responsabilité. Bon, c'est évident que le Rassemblement National, votant avec les Insoumis et avec l'ensemble de la gauche, un texte qui par ailleurs les insulte au passage, pour le coup, là, on est véritablement dans les premières années de la Quatrième République. Bon, quand on voit une majorité qui n'est pas une majorité d'ailleurs, qui est une assez grosse minorité, mais au sein de laquelle on n'a jamais senti depuis 3 mois la moindre adhésion profonde à ce que tentait de faire Michel Barnier, à aucun moment et d'aucun côté. Quand on voit ça, on se dit qu'on est à un moment où il y a une situation qui est évidemment très inquiétante, mais que l'Assemblée, les débats de l'Assemblée ne sont pas du tout à la hauteur de la difficulté de la situation. Et que de ça, la question est de savoir ce qui restera comme marge pour celui ou celle qui succédera à Michel Barnier.
Mais il y a quand même l'échec d'une méthode, celle de Michel Barnier. Il avait promis finalement de réussir, quelque chose qui paraissait d'ailleurs impossible sur le papier. Il a échoué.
Mais comment voulez-vous qu'il réussisse dans des contextes comme ça, où chacun cherche à régler des comptes avec les autres, où personne ne vous parle aujourd'hui de construction? Ils sont tous dans la logique de l'adversité, tous dans une logique de
descente. Marine Le Pen a fixé des lignes rouges, d'ailleurs Michel Barnier, au dernier moment, a cédé.
Mais il a essayé de négocier. Mais vous savez bien que...
Trop tard, peut-être.
Un budget, ça se fait globalement pratiquement sur une année. Donc Michel Barnier, il a 2 mois pour construire un budget. Il est dans une situation extrêmement difficile. Ouais. Il le fait avec modération. Il a voulu, assumé des responsabilités. Voilà. Il n'était pas trop demandeur, vous savez, il est désintéressé dans cette affaire. Et donc le total...
Oh, il n'était pas mécontent quand même d'être
premier ministre. Ah non, mais c'est autre chose. Oui. Il n'est pas mécontent. On peut avoir des satisfactions sans pour cela être, comme certains que j'ai entendu tout à l'heure, être acharné pour essayer de succéder. Notre ambition, c'est de gouverner, disait Valot. Donc on voit bien qu'il y a quand même du potentiel là pour essayer...
La gauche, depuis le début, dit la même chose. Nous sommes en tête, on devrait avoir le pouvoir.
Mais en tout cas, aujourd'hui, les Français ont donné une assemblée. Cette assemblée, où elle est capable de s'entendre, où elle crée le désordre. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est les Français qui ont choisi.
Alors,
il faut quand même prouver.
C'est peut-être pas le bon socle.
Mais c'est peut-être pas le bon socle. C'est peut-être, on pourra peut-être trouver autre chose.
Attendez.
Mais vous avez pas entendu, là, une parole de main tendue.
Non.
Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, tends la main aux autres?
Alors,
non.
Je voudrais nuancer.
D'abord, ça ne fait jamais de mal.
Voilà. D'abord, comme vous le savez parfaitement par expérience personnelle directe, c'est rarement quand on vote sur une motion de censure qu'on a les positions les plus nuancées.
Je suis d'accord là-dessus, monsieur Duhamel.
Les interventions, les allocutions, les discours de motion de censure, qu'on soit pour l'attaquer ou pour la défendre, c'est toujours manichéen et réducteur. Oui. Première chose.
Je n'ai pas connu des situations aussi graves que celle-ci quand même. Dans les situations, il y avait beaucoup de politiques.
Moi, j'en ai connu une, mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais j'en ai connu une en mai 68, où j'ai vu un gouvernement se disloquer et l'Assemblée nationale vaciller comme si elle était prise de vertige. Et les plus vieux et les plus intrépides des gaullistes brusquement se comportaient comme des adolescents effrayés.
Absolument.
Ça, je l'ai vu parce que je suis allé à l'Assemblée et je les ai regardés et ça m'a marqué.
Dont acte, mais ce n'est pas dans mon expérience personnelle.
Alors, je dis l'autre chose. L'autre chose dont je reconnais tout à fait qu'elle n'était pas très perceptible dans ses discours successifs, mais que j'observe depuis quelques jours. Là, il ne s'agit pas de remonter à mai 68, il s'agit de remonter à cette semaine. C'est que, au-delà de cette motion de censure contre nature, entre des forces totalement antagonistes, au-delà de ça, on voit très bien dans les autres groupes commencer une réflexion sur... Et si on renonçait aux motions de censure? Et si on renonçait au 49-3? Et si on se fixait une dizaine de priorités communes qui ne seraient pas le programme des uns ou la plateforme des autres, mais le résultat de nos discussions? Alors, je dis pas du tout, je suis pas utopique, je dis pas du tout que c'est quelque chose qui va gagner, je vous dis pas du tout que c'est quelque chose qui va s'imposer, je dis que c'est quelque chose qui, dans cette crise profonde, qui peut se transformer en crise des institutions, est... l'esquisse de l'esquisse d'un fait nouveau, mais qui existe quand même.
Par exemple, Gabriel Attal préconise désormais un accord de non-censure allant des LR au PS, donc une ouverture à gauche. Le Parti Socialiste parle effectivement d'un abandon du 49-3 pour trouver des compromis.
Et même les écologistes disent qu'il faut savoir discuter sur un certain nombre de points.
Peut-être qu'il fallait faire tomber Barnier, paradoxalement, pour trouver un chemin.
Ça, Il va falloir aller au fond de la crise pour trouver le sursaut. Mais c'est qu'on est engagé dans une crise. Et regardez ce que pensent aujourd'hui les marchés de notre situation et notre perspective économique qui est quand même aujourd'hui très préoccupante. Je crois vraiment que même s'il y a peut-être quelques indices, que le fond de l'affaire, même de s'en prendre au 49-3, c'est de s'en prendre à une procédure constitutionnelle de gouvernement. C'est quelque chose qui a été accepté par les Français.
Mais qui heurte les Français aujourd'hui.
Mais parce que quand il faut gouverner par moment. Et tout le monde dit que de temps en temps, il faut de l'autorité un petit peu. Moi, je trouvais formidable dans ce gouvernement un certain nombre de ministres. Retailleau, par exemple, c'est une belle découverte. Je regrette beaucoup qu'il soit aujourd'hui...
Mais il est toujours ministre.
Il va peut-être rester, on ne sait pas.
Il va peut-être rester.
Il peut rester,
mais je fais campagne pour qu'il reste. Et donc, je crois qu'il fait... Il y a des Catherine Vautrin, le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, a fait un travail formidable. Il y a des gens qui sont apparus dans cette équipe, qui valent la peine. Donc, je crois vraiment que le nouveau Premier ministre va être dans une situation quand même extrêmement difficile. Et je ne crois pas...
Quel nouveau Premier ministre?
Je ne sais pas, celui qui sera nommé par le président, je ne sais pas lequel ce sera. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il aura moins de marge de manœuvre. Vous me croyez pas, mais je vous le garantis. Je prends rendez-vous avec vous. Que petit à petit, la marge de manœuvre du Premier ministre se diminuera.
Vous êtes d'accord avec ça, là ?
Pas tout à fait. Je pense que le prochain Premier ministre, s'il est bien choisi, bon, ce que j'ignore.
Mais c'est quoi bien choisi ?
C'est quoi le bon candidat ?
C'est quoi le bon candidat ?
C'est facile, là.
Alors, le bon candidat, parmi les noms qui circulent, c'est quelqu'un qui soit suffisamment autonome par rapport à Emmanuel Macron, pour que ça ne soit pas simplement une projection d'Emmanuel Macron.
Ça écarte donc, Monsieur Le Cornu ?
Moi, je n'écarte rien. Vous me demandez des noms, je vous en donne. Et donc, quelqu'un qui soit suffisamment autonome, quelqu'un qui soit suffisamment modéré pour pouvoir fédérer, mieux que ça n'a été fait, parce qu'une des erreurs de méthode de Michel Barnier a été de privilégier, ou ce qui revient au même, de donner le sentiment de privilégier les Républicains, son parti d'origine, vis-à-vis des autres composantes de la minorité.
C'était les seuls qui voulaient parler avec lui. Donc c'était très difficile, mais bien sûr.
Madame Le Pen a sa stratégie personnelle. Mais je ne vous parle pas d'eux.
Mais tous les autres partis.
Mais je vous dis au sein du socle commun.
Vous avez vu comment il a été accueilli par Gabriel Attal à Matignon le jour même où il est nommé. Gabriel Attal fait son discours.
J'ai très bien vu tout de suite que Gabriel Attal n'avait pas une prédilection pour Michel Barnier et que Michel Barnier n'avait aucune envie de promouvoir Gabriel Attal. Mais je dis ça d'abord, ce climat-là qui a été mauvais dès le début. Il n'est pas obligatoire qu'ils se reproduisent de la même façon.
Bien sûr, et je disais que donc,
il faudrait un Premier ministre, qui soit suffisamment autonome de façon crédible vis-à-vis d'Emmanuel Macron, deux, qui ait des capacités de rassemblement, bien sûr, d'abord de ce qu'on appelle le socle commun, et qui est quand même une petite chose, globalement.
Insuffisant.
Qui soit capable d'être assez imaginatif pour essayer de trouver des points de consensus sur un certain nombre de sujets qui parlent aux gens, mais qui surtout améliorent la situation des gens. Et on sait très bien qu'il y a des choses qui peuvent être faites relativement rapidement. Bon, typiquement, les mesures pour les agriculteurs, par exemple, elles peuvent être faites très rapidement. Encore faut-il avoir un gouvernement qui puisse le décider et le mettre en œuvre.
Mais ça, c'est une assemblée rêvée. Je sais bien que vous connaissez
vous-même et héréditairement les questions agricoles et que vous les connaissez bien dans votre région. Mais les mesures qui étaient préparées sur le plan agricole, un nouveau gouvernement peut les faire appliquer dans le mois qui suit.
S'il a un budget.
Ben oui, mais il y aura un budget.
Mais vous savez
bien comment ça part.
Mais des noms sont cités là. Alors c'est toujours un peu les mêmes. Sébastien Lecornu, actuel ministre,
qui est un bon ministre,
armées.
Même un très bon ministre.
François Bayrou.
Oui, qui n'est pas du tout un ministre.
Non, ça c'est que des proches d'Emmanuel Macron. On s'éloigne. Michel Barnier n'était pas un macroniste. Il venait des LR.
Pas du tout.
Et d'ailleurs, on n'avait pas appelé ça cohabitation.
Non, mais je suis d'accord.
Une collaboration différente.
Je suis d'accord. Mais d'abord, il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que ces noms-là. Par exemple, Jean-Pierre Raffarin parlait de Retailleau, qui incontestablement est le ministre qui, du point de vue médiatique, c'est le mieux imposé en minimum de temps. C'est un des noms.
Il a structuré son action
pour ouvrir à gauche avec Bruno Retailleau, c'est compliqué.
Non, pas pour gouverner ensemble, pour trouver un certain nombre de priorités. C'en est un, et lui, il risque pas d'être identifié à Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Lecornu, il est habile et compétent. Il est proche d'Emmanuel Macron, mais il a bien réussi à plusieurs ministères différents, ce qui n'est pas si fréquent. Bayrou, c'est comme Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire, c'est vraiment...
S'il vous plaît.
C'est vraiment un homme politique, au sens propre, avec,
ça,
avec de l'expérience.
Ça s'arrête là. Donc.
Avec de l'expérience. Mais non, ce n'est pas leur seul point commun. Ah oui, avec de l'expérience.
Absolument.
Et avec l'habitude à la fois d'être solidaire de son camp, mais d'être autonome dans son camp. Et oui, il me semble que c'est également le cas de Jean-Pierre Raffarin.
Et François Baroin ?
Et François Baroin, qui est...
Le nom est toujours, sort toujours du chapeau depuis des années.
Un des très rares noms qui séduisent toujours au cœur de son camp et au-delà de son camp. Alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le convaincre d'accepter de venir pour prendre beaucoup de coups et avec une petite marge.
Qui voyez-vous,
Je ne vois pas aujourd'hui de personnalité qui peut construire une majorité
différente,
plus puissante que celle de Michel Barnier.
Mais trouver des convergences.
J'espère que vous avez raison, Alain. J'espère vraiment que vous avez raison.
Oui, mais je suis
sûr. J'espère que la logique de compromis, que la logique d'accord puisse se
faire,
notamment sur des consensus. Quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je me dis, c'est pas là.
Peut-être que
ça viendra, mais en fait, ce que j'ai vu quand même, tous les règlements de compte, et tous ceux qui sont déjà dans la présidentielle, toute cette crispation que l'on voit, et au total, cette image de désordre. Parce qu'au départ, je crois que le désordre, ça a été imputé à Macron, au président de la République, parce qu'il a déclenché avec la dissolution.
Ça, il n'y a pas de doute.
C'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale de porter le chapeau. Aujourd'hui, il y a un lieu du désordre, c'est l'Assemblée qui n'est pas capable de trouver des solutions. Alors si à chaque fois qu'il y a des difficultés, il faut trouver un nouveau Premier ministre, ça va quand même être très compliqué. Et je ne vois pas...
Dans la liste, aujourd'hui, quelqu'un s'impose. Par exemple.
Oui, mais pardon...
On a oublié Cazeneuve dans la liste,
bien sûr,
qui est une autre option.
Mais
Cazeneuve à gauche.
Alain Duhamel, Jean-Pierre Raffarin, est-ce qu'on ne risque pas simplement de voir un premier acte et ensuite d'avoir des bis répétiteurs.
Attendez, juste pourquoi ?
Parce que vous dites qu'il faudra trouver des majorités ou plutôt
des convergences sur un petit nombre de points
n'empêche que,
de prioritaires.
D'accord, mais n'empêche que restera le groupe.
Vous satisfaire aussi Marine Le Pen.
C'est pour ça, restera le bloc Rassemblement National, restera le bloc
France Insoumise. Alors, je vais
vous dire. Attendez, je finis juste. Et quand arriveront les dossiers immigration, les dossiers sécurité, les dossiers impôts, la majorité de nouveau où ce bloc risque de se fissurer face à deux autres blocs qui censureront sur des dossiers importants comme l'immigration ou la sécurité.
Mais non, mais je ne vous dis pas du tout.
On aura peut-être encore une censure.
Je ne vous dis pas du tout
que ça peut être facile. Ça ne peut pas être facile, bien entendu. Mais je crois qu'il va y avoir un fait nouveau quand même. C'est que les Français, quand ils vont voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire motion de censure, démission du gouvernement, toute une série de dossiers qui les concernent directement, les Français, et qui sont gelés, au moins pour quelques semaines, peut-être pour quelques mois, peut-être pour certains d'entre eux, définitivement. Quand ils vont voir ça, je suis persuadé que l'idée d'un désordre et d'une instabilité, ça ne va pas du
absolument
tout leur plaire.
Absolument.
Mais ça se retourne vers le président.
Attendez, laissez-moi terminer mon truc.
Ça se retourne vers le président.
Mais autrement, j'oublierai. Bon.
Mais non, ça, je ne crois pas.
Et ça veut dire que le prochain Premier ministre aura plus de chances que le Premier ministre sortant et sorti, parce que
je ne suis pas d'accord sur ce
attendez,
point.
Ceux qui prendraient la responsabilité, après avoir censuré Michel Barnier, de censurer de la même façon 3 mois après un autre Premier ministre, je suis certain que dans la tête des Français, ça se retournerait contre eux, parce que les Français sont déjà inquiets, ce qui est normal, anxieux même, et s'ils ont le sentiment que tout gouvernement est un gouvernement en sursis immédiat, ils en voudront aux organisateurs du désordre et ils seront identifiés.
Vous êtes en désaccord.
Je ne suis pas d'accord sur ce point. Je pense que d'ailleurs, vous-même, au début, vous avez parlé de désordre institutionnel.
Oui.
Je crois que c'est ça, en effet, le problème. Et que le désordre institutionnel, il est en marche, il est voulu, et l'équipe Mélenchon voudra ce désordre institutionnel. Et Madame Le Pen, qui est dans des difficultés judiciaires importantes, cherche aussi un désordre institutionnel. Donc, je ne vois pas comment un Premier ministre aurait plus de chances d'avoir un accord que n'a eu Michel Barnier dans un moment où le Front National essayait encore d'être notable et d'être raisonnable. Et on voit bien qu'il est revenu dans sa position anti-institution.
Je ne vous dis pas qu'il obtiendra un accord. Ça serait utopique. En revanche, que la responsabilité d'être à 3 mois d'écart le responsable de la chute d'un gouvernement quand la France est en crise, ça sera au détriment de ceux qui le déclencheront.
Il y a aussi Emmanuel Macron dans tout ça quand même. Qui a dissous.
Oui, à l'origine, il n'y a pas de doute.
Qui a dissous il y a quelques mois, qui voulait de la stabilité, mais qui a créé encore plus d'instabilité, qui avait nommé Michel Barnier, finalement, ça a échoué. Et puis certains commencent à le dire, mais en fait, pour sortir de cette crise, il faudrait qu'Emmanuel Macron parte. Alors, il a répondu hier, le chef de l'État, que c'était du fantasme et qu'il resterait jusqu'au bout président de la République. Mais enfin, ce n'est plus un tabou maintenant.
Si, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, d'ailleurs. Oui, elle a dit, face à la défiance populaire, c'est à Macron de conclure s'il est en mesure de rester ou pas. C'est à sa conscience de lui commander.
C'est ce qu'a dit Marine Le Pen et c'est ce que ne cesse de dire Jean-Luc Mélenchon. On sait très bien que pour l'un comme pour l'autre, l'objectif, c'est d'obliger Emmanuel Macron à démissionner pour qu'il y ait une élection présidentielle, chacun des deux étant persuadé que, bien entendu, il sera élu. Bon, d'une part, c'est contraire aux institutions, ça c'est une évidence, mais d'autre part, on ne se débarrasse pas d'un président de la République comme ça, en claquant dans les mains. Le 31 mars, il y aura déjà une nouveauté qui sera de nature judiciaire et qui changera forcément le rapport des forces à un moment. Et Emmanuel Macron a encore un certain nombre d'atouts pour se défendre. On ne pourra pas... Faut avoir en tête que tout ça se passera dans une période d'instabilité économique, donc d'anxiété, donc de peur du désordre. Et on ne sortira pas d'une crise politique en inventant, en créant et en propageant une crise institutionnelle. Si on arrive à obliger un président à sortir malgré lui et à ne pas accomplir la fin de son mandat, tout président de la République qui lui succédera sera exposé à la même chose. Et ça, pour le coup, c'est non seulement une crise institutionnelle, mais c'est la fin de la Ve République. Ça veut dire qu'il y aura un autre régime.
Vous dites qu'on ne peut pas jouer avec les institutions, mais Emmanuel Macron, en décidant de dissoudre l'Assemblée, a joué avec les institutions.
Il n'a pas joué, c'est dans les institutions, c'était
le soir d'un résultat de scrutin, c'était original.
Parce que c'est vrai que cette petite musique, on la voit se développer. J'ai même des gens de droite, Jean-François Copé, qui dit démission du président sur la thématique, il faut remettre les institutions à l'endroit, d'abord l'élection présidentielle, ensuite des législatives.
Donc c'est qu'une démission de président.
Il est possible qu'il y ait un moment ou un autre cette volonté qui s'exprime de sortir par la présidentielle plutôt que par une nouvelle législative, une nouvelle dissolution au mois de juin. D'où l'importance que l'Assemblée puisse travailler positivement. Parce que si l'Assemblée continue à être l'Assemblée du désordre, naturellement, aux yeux des Français, la nouvelle dissolution n'apparaîtra pas comme une solution.
Absolument.
Et donc là, on rentrera peut-être dans une crise institutionnelle. D'où l'importance qu'il y a que le scénario d'Alain Duhamel existe, c'est-à-dire qu'il y ait, sur des sujets concrets, des capacités de travailler ensemble. L'Assemblée doit montrer qu'elle n'est pas anti-action et qu'elle n'est pas limitée dans le verbe. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas. Peut-être qu'on le verra. Vous voyez, moi, je suis très pessimiste sur ce sujet, parce que je connais assez peu de gens qui ont la modération d'un Barnier, qui ont cette capacité à travailler avec tout le monde, et au fond, qui est sans ambition vraiment personnelle.
Vous êtes triste pour votre ami, Michel Barnier ?
C'est pas triste dans la mesure où il savait très bien où il allait.
Vous connaissez depuis si longtemps?
Plus de 50 ans. Donc, je le connais bien, il savait très bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est allé de manière désintéressée. Et donc, il a tenté ce qu'il a pu tenter. Mais je crois que, au total, c'est extraordinairement difficile dans ce contexte. Et peut-être aussi que un certain nombre de gens dans le camp présidentiel ont pensé à une certaine cohabitation. Ça va rien d'une cohabitation. Parce que l'échec de l'un, c'est l'échec de l'autre aussi. Dans la cohabitation, quand Jospin va pas bien, c'est Chirac qui remonte. Et quand Chirac va pas bien, c'est Jospin qui remonte. Ou c'est Chirac et Mitterrand. Donc, il y a toujours eu, dans la cohabitation, des vases communicants. Aujourd'hui, on est dans une situation où le président et le premier ministre sont le parti de l'action. Et face à ça, il y a un parti du désordre. Et il faut que l'action l'emporte sur le désordre.
Mais vous êtes comme M. Raffarin, vous êtes pessimiste aussi, Alain Duhamel, ou pas?
Moi, je trouve qu'on est dans une...
Ah, il a de l'espoir, lui.
Je trouve qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Parce qu'il y a l'accumulation de crises qu'on connaît, qui sont simultanées. Ça ne veut pas dire qu'on soit sans solution. On n'est pas au bord de la révolution. On n'est pas au bord du blocage institutionnel. C'est une hypothèse. Si tous les trois mois, on renvoie un gouvernement...
Il faut trouver une solution avant le mois de juin.
D'accord.
Merci. Parce qu'après le mois de juin, on risque de... On a jusqu'au mois de juin pour trouver la solution.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Jean-Pierre Raffarin. Merci, Alain Duhamel.